Salut Daniel, je suis encore sous le choc là, j'écoute Charlie Bauer. Putain, c'est formidable ça. Chacun est un ombre en soi. Résistance, résistance. Quelle leçon de liberté, quelle leçon de réaction, quelle leçon d'appropriation. Putain, c'est fabuleux ça. Écoute, même si t'es en bas, ben, il te fait remonter à la surface, il te fait... C'est en moi, il m'a fait vibrer ce mec-là, mais alors je te dis pas. Hein. Et bon, ben, je suis reparti pour un tour. Hein. Continue, Daniel, et merci pour tout. Et salut à tout le monde.
Bon, moi, je téléphone pour vous annoncer le repère de Lyon, jeudi 5 octobre, à 20h, au comptoir du Sud, 10 rue Rivet, dans le 1er arrondissement, chez Bruno. Et le téléphone 04 78 28 01 74. Merci et venez nombreux au repère de Lyon.
Vous vous rappelez, il y a un an passé, pour qu'on dise oui à la Constitution, Airbus, fleuron européen, cette union magnifique, est bien soufflé, il est devenu plat comme une crêpe. Le retard jusqu'à 2 ans est dû à la dispute des pays de l'Union, chacun tirant sur un morceau du sentier. Tant pis s'il n'y a plus de coordination. Ah, elle est belle cette Europe! Inventé. Et maintenant, qui va payer les pots cassés? Pas les dirigeants, au salaire mirobolant, non. C'est tout en bas, les précaires d'Airbus, les salaires en CDI, la sous-traitance. Merci, la belle Europe. Ça donne vachement envie d'y croire. C'est Marie-Paul de Villejuif.
Nous vous attendons au prochain repère de Strasbourg, samedi 7 octobre à la Hache, à partir de 15h. À samedi.
Oui, bonjour Daniel. Ici Bulle, le dernier constructeur français, donc européen. Après des années de redressement, avec des emplois salariés sacrifiés par milliers, après des années de disette salariale, un nouveau gel des salaires est annoncé pour 2006. Pendant ce temps, comme tant d'autres, l'actuel PDG s'octroie une augmentation de son bonus de 40% et recrute ses copains. Malgré tout ce que l'on raconte aux salariés, la place doit être bonne. Depuis maintenant 3 semaines, plus de 40% des salariés en France manifestent leur mécontentement sur cette arnaque et la dégradation des relations sociales dans le groupe. Aujourd'hui, 5 octobre, l'intersyndicale appelle à une grève nationale très suivie, avec montée au siège parisien, alors que la culture de l'entreprise est très étrangère aux mouvements sociaux. Allez, comme souvent dit sur ton antenne, ne lâchez rien.
Bonjour vous, bonjour nous. Voilà, c'est Yannick de Paris. Alors, pour dire quoi, le café Repère du 20e à Paris propose son 25e rendez-vous, c'est si 25e, hein, j'ai bien dit. Donc, son 25e rendez-vous du Café Repère, ce sera samedi prochain, le 7 octobre à 16h, au 6 rue Sorbier, dans le 20e, donc au Café-Restaurant Le Lieu Dit. Voilà, donc au préalable, un seul thème, la rencontre, puis en général on développe hein, dans un certain sens, oui, ou dans des certains sens. Bon, allez, à samedi, ciao.
Bonjour, petit message pour vous annoncer le deuxième rendez-vous du Café Repère de Combourg qui se déroulera ce soir, jeudi 5 octobre à partir de 20h au bar Moustache. Voilà. Et on parlera de l'eau, de l'environnement. Voilà, merci, à bientôt.
Je vais essayer de vous dire où je suis, parce que je sais pas très bien moi-même. Je suis dans la pénombre, la nuit est en train de tomber, je suis dans un immense hôtel, décati, complètement décati, une splendeur abolie, l'hôtel qui appartient à l'État encore. Tout est crasse, poussière, en loc, et il n'y a pas d'électricité dans cet hôtel. Et il faudra attendre que la nuit soit plus épaisse, sans doute pour qu'on mette en route un générateur. Et peut-être y aura-t-il un peu d'essence. Et dans quelques instants, ça va être la rupture du jeûne. Et les copains vont se précipiter sur un peu de nourriture, une grappe de raisin, de l'eau surtout, parce qu'ici c'est une région, on est à Jalalabad, on a quitté Kaboul pour Jalalabad en direction du Pakistan. Et ici c'est une région très sèche, très asséchante comme ça. Voilà, mais moi j'ai grignoté un petit peu avant, j'ai trahi un peu, après tout je suis pas musulman. Et voilà, et on revient d'une... d'un reportage formidable à 2 heures de voiture à peu près de Jalalabad, dans une région où les paysans, dans des villages, où les paysans font du pavot et donc font de l'opium. L'opium est devenu le 80% du PIB de l'Afghanistan. Jamais la production n'a été aussi importante dans ce pays, et aujourd'hui l'Afghanistan assure 95% de la production mondiale d'opium. C'est devenu la ressource principale, la production principale, et c'est ce qui structure aujourd'hui la vie économique et sociale du pays. Aussi, les éradications, le djihad lancé par le président Karzai contre l'opium, le djihad pour l'éradication contre l'opium, n'a évidemment aucun succès et suscite la colère des habitants, des paysans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune autre ressource. Dans les régions où nous sommes allés, il y a une sécheresse terrible qui a frappé. Déjà que c'est des pays très secs, la sécheresse a frappé, et les plantations ordinaires de blé ou de maïs ne donnent rien du tout. Et l'opium, par contre, enfin le pavot, rapporte énormément. Ne rapporte pas tant que ça d'ailleurs, mais de quoi vivre à peu près correctement pour ces paysans. Et ce qui est formidable, c'est que si l'éradication est appliquée véritablement, eh bien ces paysans seront jetés dans les bras des talibans, dans les bras, comme dans d'autres parties du monde, dans les bras des guérillas, parfois les plus bornées et les plus radicales. C'est ce qui est de se passer. Évidemment que tout le monde est contre l'opium, les drogues, l'héroïne, etc., etc. Sauf qu'il y a des conditions de production, ben voilà, qui se font dans des conditions comme celle-là, qui font dire par moments, en écoutant les paysans, ben vive l'opium, tout bêtement, sans se soucier évidemment des conséquences que ça peut avoir sur des populations, notamment en Iran, où on a beaucoup d'opiumanes, beaucoup d'héroïnomanes, ce qui est évidemment une catastrophe en termes de santé publique. Voilà notre reportage du jour. On continue avec passion dans ce pays décidément compliqué, ce grand terrain de jeu qu'est l'Afghanistan aujourd'hui, où j'espère que l'image n'a pas de sens, où à l'instant où je vous parle, la nuit tombe. Aujourd'hui, là-bas si j'y suis, retour dans un camping très particulier près de Toulouse avec Olivia Gesbert. Récemment, on a évoqué les 7 millions de travailleurs pauvres en France. Là, on va découvrir des campeurs pauvres et surtout des mal logés. Il y a 3 millions de mal logés en France. On va les retrouver, quelques-uns d'entre eux, et c'est pas nécessairement triste ni misérabiliste, dans ce camping de Toulouse, après les messages que voici parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Charlie Bauer, c'était fantastique, formidable. Merci Marmet. Merci là-bas si j'y suis, l'émission fantôme de France Inter.
Oui, bonjour, ici Loïc Josse de l'association Identité Plurielle à Saint-Malo. Le week-end du 13 au 15 octobre, on organise des rencontres autour du thème de guerre et paix avec des écrivains, des journalistes, cinéastes, des spécialistes des conflits et des processus de paix pour les faire dialoguer puis rencontrer le public. Il y aura notamment Jean-Pierre Perrin, grand reporter, il y aura Milana Terloeva, qui est une jeune étudiante en journalisme tchétchène, Anne Brinzik, Florence Aubenin, Roger Faligot, Jean-Arnaud Derrins, Pierre-Jean Luisard du CNRS, Hélène Gédouin, Manon Fargeton, Jean-Marie Minguez, et puis Roger Jiquel, et puis Philippe Chapelot, sans compter que nous aurons la projection du film de René Vautier, Avoir 20 ans dans les ORS, avec un débat en présence de René Vautier. Tout ça le week-end du 13 au 15 octobre à Saint-Malo. Merci à vous, au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Pierre-Yann du collectif des précaires en colère de Perpignan. On est quelques personnes, chômeurs, étudiants, retraités, et on a formé ce collectif lors des dernières manifs pour le retrait du CPE en avril dernier. Et on informe, on diffuse, on colle des affiches, on débat, On essaie à notre niveau de faire reculer la précarité. Et on a invité Fabienne Brutus à venir à Perpignan parler de son livre « Chômage, des secrets bien gardés ». Et bien, très gentiment, elle a accepté. Alors voilà, on est super contents. Et je fais passer l'invitation. Alors, conférence débat avec Fabienne Brutus, samedi 7 octobre à 15h, salle des Libertés, 3 rue Bartissol à Perpignan. Entrée libre, venez nombreux. Voilà, merci.
Campy Le Ruppé, bonjour. La semaine ?
Ouais, ok.
Il n'y a pas un jour, moi je suis là depuis le 1er avril 1996, il n'y a pas un jour où on n'a pas eu une demande de logement pour des gens qui sont en quête de logement à Toulouse. Voilà.
On va me demander 3 ou 4 mois de caution. Je ne sais pas. À 59 ans, on ne va pas me demander une caution de mes parents. Je ne les ai plus.
En fait, camping ou pas camping, c'est un petit village, ouais. Avec des petites rues. Et puis d'un côté, il y a une allée de mobilhome. De l'autre côté, il y a une allée de caravanes.
Alors c'est vrai que nous, on se plaît à dire, en fait, les quatre mobilhomes ici, qu'ici on est sur les Champs-Élysées, en fait. Donc,
et... Les bourgeois du camping.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
C'est tous les bourgeois du camping.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Olivia Gesbert, les chiens à bois, la caravane ne passe pas.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, comment ça va? Vous avez trouvé facilement?
Non.
Je m'en doute. Bon, alors, monsieur.
Oh, I need coins for the washing machine.
Washing machine, alors.
Merci.
Je ne vous ai même pas présenté. Vous êtes Monsieur Lagarde. Vous êtes donc le gérant du camping.
Tout
le camping
fait.
Du pont de Ruppé.
Le camping du Ruppé, il s'appelle le Ruppé. Et il n'y a absolument pas que des tourismes. Que du tourisme loin de là. On a destiné de grands emplacements à des gens qui sont propriétaires de mobilhomes et qui nous louent un emplacement. Ensuite, on a un autre tiers qui est habité surtout de gens qui sont là pour des raisons sociaux. Professionnels. Alors là, socio-professionnels, c'est des gens qui sont là pour des chantiers. Et Toulouse a une activité, on va dire, de main-d'œuvre énorme. Ça, on s'en parle uniquement du phénomène AZF depuis quelques années. Mais l'AZF, le métro, l'aérospatial et tout ça, il y a énormément de main-d'œuvre mobile qui habite ailleurs et qui viennent pour des raisons professionnelles séjourner à Toulouse.
Donc, ouvriers surtout.
Des ouvriers, voilà.
Plus que des cadres, j'imagine.
Et ça a frôlé à une époque près de 10%. On avait 10% de cette clientèle-là, c'était des cadres. Et puis à l'heure actuelle aussi, une grosse demande. Je pense qu'on va évoluer vers ça. On va ouvrir un parc locatif supplémentaire pour le public étudiant. C'est n'importe quoi parce que... Campy Le Ruppé, bonjour. Mais en voiture ou à pied, allô? Il n'y a pas un jour, moi je suis là depuis le 1er avril 1996, il n'y a pas un jour où on n'a pas eu une demande de logement pour des gens qui sont en quête de logement à Toulouse. Voilà.
Le chien aboie, mais la caravane ne passe pas. Elle reste en travers de la gorge. Mais on le dit pas, pas trop, pas comme ça. On fait comme si, on se la raconte, on embellit. Ce qui est subi, c'est choisi. Du subi au choisi. Qu'est-ce qui est subi? Qu'est-ce qui est choisi? Pas facile de le dire, mais on s'en doute un peu. 3 millions de mal logés en France. C'est le chiffre avancé par la Fondation Abbé Pierre, qui prend en compte les SDF, les personnes vivant dans des habitations surpeuplées, et ceux qui vivent dans un habitat provisoire. Hébergement d'urgence en France. 90 000 places au niveau national, dont 23 500 en Île-de-France. Logement social en France, 1,3 million de personnes en France sont en attente d'un logement social. De nombreuses communes ne respectent pas le quota de 20% imposé par la loi SRU. Tout ça, nous le savons. Nous savons moins que dans ces campings. On ne sait pas d'ailleurs combien habitent dans ces vivent là dans ces campings à l'année, entre 100 000 et 200 000. C'est quand même une fourchette assez large. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vivent dans ces campings, de plus en plus de femmes, plus ou moins seules, de plus en plus de familles qui y vivent de plus en plus longtemps. Donc ça nous a semblé assez intéressant pour qu'on aille faire un tour avec notre sac à dos. Enfin, c'est Olivia Gesbert qui est partie avec son sac à dos près de Toulouse, dans un camping qui s'appelle le camping du Rupet. On a été reçu, vous avez vu, par l'aimable et jovial monsieur Christian Lagarde. Et c'est avec lui qu'on va faire le tour de ce camping et rencontrer certains habitants de ces caravanes immobiles. C'est là-bas que j'y suis.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre ferme. Attention, une fois qu'y est, c'était un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes papes avant d'aller te balader, sois pas trop blasé. Allez, seuls les stands sont distribués. Ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartin gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager et s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancunier ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu.
On va prendre la golfette.
Allez-y. Hop.
On va en profiter justement. Je vais vous faire faire le tour.
Ah, ça, c'est vos mobile home, par exemple.
Ça, c'est le mien, celui-là. D'accord. Moi, je vis là.
D'accord.
Après, j'ai un gardien qui vit là, un employé.
C'est quelle superficie ?
4 hectares. Donc, voilà le quartier, on va dire, des gens qui ont leur propre mobile home. Là, justement, il y a une dame seule depuis 10 ans qui est là. Ça, c'est un jeune couple qui a décidé de vivre comme ça. Ça, c'est une dame qui travaille à la mairie, qui vient de s'installer il y a une semaine.
Ah ouais.
Qui vient d'acheter son mobile. Mais elle est là. Là, c'est des Portugais qui viennent s'installer en France. Elle a fait du ménage, lui, il travaille. Ça, c'est une de nos employées, là, qui est là depuis le Roi des Êtres. Voilà, qui est, voilà. Voilà un jeune couple qui a des enfants. C'est le seul. Salut. Bon, ça, c'est un peu pocheron, un peu gitan. Je vous le déconseille. Enfin, bon, c'est... Bonjour. Là, un autre, un jeune qui attend de se refaire un petit peu, qui s'est installé en son nom. Mais après, tout le reste, ce sont des ouvriers. Voilà. Alors, le problème, c'est que les ouvriers, voilà, vous allez en voir peu, parce que le week-end, ils sont quand même, ils partent chez eux. Le bâtiment, beaucoup le bâtiment. Voilà, on continue dans une allée où il y a encore des gens qui travaillent. Bon, là, ils sont pas là. Là, c'est un routier. Là, c'est une jeune fille qui loge, qui est flic. La plupart, c'est des attentes de logement. C'est celle-là ? Ça, c'est la borne électrique. On va faire un chantier pour passer de 2 à 4 étoiles, puisqu'on va faire piscine, on va refaire cet espace-là. L'objectif, ce serait là pour les étudiants, justement.
D'accord.
Voilà. À la limite, ce qui est intéressant en activité économique, nous, c'est qu'il y ait trois cibles, qu'il y ait des gens à l'année, en mobile home, plus des ouvriers, plus du tourisme, fait qu'on a un taux de remplissage qui nous intéresse. Là, cette partie-là que l'on attaque, c'est vraiment que le passage. C'est-à-dire, c'est pour les camping-cars à la nuitée, voilà, tout ça.
Ben voilà, Christian Lagarde vous a à peu près tout dit. Enfin, il vous a présenté un peu le lieu, ce camping du Rupet, 4 hectares, avec, vous voyez, des catégories différentes d'occupants du passage qui sont là pour des raisons diverses. On glisse une petite phrase de temps en temps, l'autre, c'est un peu poche, trop un petit peu gitan, n'y allez pas, quoi. Hein. Mais ça ne nous empêche pas de visiter ce camping et d'essayer de comprendre pourquoi on y vit à l'année, comment on y vit à l'année et qui sont ceux qui vivent là. On commence par un premier occupant qui nous accueille.
Rue de Plaisance. Alors Jacques, lui, s'est construit tout un petit enclos.
Hey, on ne peut pas être tranquille dans le tripot, là.
Alors, chez vous, c'est très coquet. Petit rideau un peu taffetas bordeaux, hein, du bambou au fond. La petite table roulante. C'est le coin salon, là-bas ?
Là, c'est le coin salon télé. Coin salon télé. Bon, là, le coin cuisine, salle à manger, la salle de bain ici, et derrière, il y a la chambre. C'est 27 mètres carrés. Ça, c'est intransportable. Si on commence à le bouger, tout va tomber. C'est pas fait pour être transporté. C'est un mobilhome que j'ai transformé en petit studio, disons. Voilà. Et il y a le chien, il y a Jules. Jules, qui est l'idole du camping, parce que ça fait 7 ans qu'il est ici, il est arrivé tout petit.
Alors, c'est pas vous le doyen, hein. Je crois qu'il y a une femme plus âgée.
Oui. Plus âgée en temps. Oui. C'est André, qui est là depuis 10 ans. Alors, ce qui m'a amené là, la vie. Commercial pendant des années. Divorce. Je me suis retrouvé tout seul dans un, bon, comme tous les divorcés, hein, dans un appartement. Appartement tout neuf, hein, F2. Au bout d'un moment, je suis parti, j'ai vécu un petit peu chez des copains et je suis arrivé ici avec une petite caravane. Et petit à petit, après, j'ai acheté une caravane un petit peu plus grande. Et puis après, le mobilhome. Maintenant, je suis à la retraite. Faut bien se dire aussi, c'est que ici, l'avantage, c'est qu'on sait exactement combien on dépense tous les mois. C'est-à-dire, on paye notre emplacement, l'eau est comprise. La taxe, les impôts locaux sont compris dedans. Donc, on n'a pas de surprise en plus. Il faut compter 300 euros l'été, 350 euros l'hiver. Il faut bien se dire que c'est que les gens qui habitent dans ce genre d'habitation, ben on n'est pas riches. Hein. On serait riches, on aurait une grosse villa avec piscine. Hein. Regardez, moi, bon, je pourrais avoir les moyens, à la rigueur, de me payer un loyer. Mais là, demain, on me dit, je pars. On va me demander 3 ou 4 mois de caution. Je ne sais pas. À 59 ans, on ne va pas me demander une caution de mes parents. Je ne les ai plus. Comment je trouve un appartement? Comment je fais? Vous me dites.
Et votre retraite? C'est une bonne garantie, ça?
Une garantie? Elle n'est pas grosse, hein? Elle est combien? Je touche à peu près dans les 800 euros par mois. On va pas loin avec ça, hein?
Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos anciens copains, votre ex-femme, ce nouveau choix de vie?
Alors, il y a plusieurs réactions. Il y a plusieurs réactions. Déjà, quand on vit dans un camping, oh là là. Au début, je marquais jamais camping sur mon courrier, surtout. Alors que maintenant, ma carte d'identité est à l'adresse du camping, mon permis de conduire est à l'adresse du camping, ma carte grise, tous mes papiers, je reçois les papiers de la banque, je reçois mes papiers d'impôt à cette adresse. Donc, je vis là. Mais c'est vrai que vis-à-vis de certaines personnes, quand on dit qu'on vit au camping, beaucoup de personnes mélangent camping, camp de gitan. Normalement, on n'a pas le droit d'y vivre à l'année. Mais
Tout le monde ferme les yeux parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
C'est aussi ça qui fait que vous êtes hors de toute statistique. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas combien de personnes en France vivent en résidence permanente dans les campings.
Faux. On vient de faire le nouveau recensement de l'INSEE pour la première année. Un recensement résidence mobile. C'est vrai que jusque-là, on n'était pas recensé.
Pastis de Marseille, le vrai.
Ouais. On est entouré avec deux barrières. On vit dans un camp. Camping, on vit dans un camp. De toute façon, on ne dit plus camping. Ça s'appelle résidence hôtelière. Hôtel de plein air. Ça s'appelle plus camping, hein, c'est fini le camping. C'est péjoratif. Hein, et en plus, il y a un mélange. Moi, j'ai un voisin, c'est un arabe. On a des Portugais, on a des Russes. On a justement toutes les classes sociales. L'avantage, le truc du camping, c'est qu'on n'est pas du tout dans un ghetto. C'est que y a des gens qui sont au chômage, y a des gens avec enfants, il y a des couples, il y a des hommes seuls, il y a des femmes seules. Et comme il y a de plus en plus de demandes, la demande, elle est là.
Hein. Alors, vous me recommandez d'aller voir qui, ici?
Bon, déjà, voir une femme qui vit toute seule. Par exemple, la dame, là, celle qui vient d'emménager. Donc, voir un petit peu pourquoi elle est là, pourquoi. À la rigueur, voir le couple de jeunes, des boulangers, qui sont là, pas plaisir. Donc, là aussi, c'est intéressant. Bon, puis après, vous avez aussi le cas de personnes... cas sociaux à voir aussi, qui est pas du tout notre à voir aussi, parce que ça existe.
J'aime pas ma vie, j'aime pas mon chien, la voit tout le temps. J'aime pas chez moi, j'aime pas chez toi, j'aime pas les cons. J'aime pas parler de la pluie, j'aime pas parler du temps. J'aime pas les jours qui passent, j'aime pas le changement. J'aime pas ma tête, j'aime pas la tienne, celle des passants. J'aime pas le gentil, j'aime pas la brute, j'aime pas le méchant. J'aime pas l'oiseau, j'aime pas le cafard qui vit mille ans. J'aime pas la mort, j'aime pas l'amour, j'aime pas les gens.
La gueule, je me la fais sur mesure. Quand je mesure ce qui me fait chier. Et comme ça, au fur et à mesure, j'en arrive à bien m'aimer. Dans un petit tas que je mesure, j'emplis tout ce que je peux pas plaire.
C'est bon ?
Ouais, je suis les dalles et je dois arriver au portail. Et après, c'est à gauche. Voilà, là, je sors de chez Jacques. Il fait complètement nuit. Une belle nuit étoilée. C'est tout calme dans le camping. Il est 20h.
Montez, bon. Madame.
J'enlève les chaussures, hein, peut-être.
Non.
Il doit y avoir de l'amour.
C'est pas grave.
Bonjour.
C'est le mari de cette dame.
J'ai un fouet.
Là, Christophe, je savais bien que j'en avais un, tenez, regardez.
Merci, Françoise.
Vous voyez, si j'ai de la chance, j'ai trouvé des gentils voisins qui voient que je suis seule, là, que je viens d'arriver, et ils viennent me faire compagnie. Alors, ce soir, on fait la dinette.
Christophe, ouais.
Toi, c'est Christophe.
Ouais. Moi, je suis responsable d'un magasin Place Jeanne d'Arc, en fait, en boulangerie-pâtisserie, où il y a 7 personnes, où je gère 7 personnes, en fait.
Myriam. D'accord. Moi, je suis serveuse dans un restaurant.
Françoise.
C'est Françoise.
Moi, j'étais chez Monet de Croix. 480 € de loyer par mois. Un bon environnement, une résidence neuve. Mais moi, quand j'ai la chance d'être une fonctionnaire, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Mais je ne veux plus donner pratiquement la moitié de mon salaire. Ici, je paie que 240 € par mois. Le mobilhome va être à moi, je l'achète. C'est le toit, c'est mon toit. Bon, jusqu'à présent, j'en ai pas eu. Ça va être à moi. Parce que maintenant, j'ai plus l'âge d'avoir un appartement, d'acheter un appartement, de faire un crédit. J'ai plus l'âge. Les aléas de la vie font que, quelquefois, on a 60 ans et on n'a pas d'appartement à soi. J'ai l'âge de la retraite qui arrive et je ne veux pas être à la charge de mes enfants. Mon métier me fait penser vraiment comme ça parce que je suis aide-soignante en gériatrie et que les problèmes parents-enfants, je les vois tous les jours. Quotidiennement, il y a des enfants qui se disent « la pension de maman va nous coûter tant et on a du mal à la payer ». Au retour de vacances cet été, mes deux garçons ont commencé à me dire « Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir, maman ? 60 ans arrivent, qu'est-ce que tu vas devenir ? Parce que dans 3 ans, tu as fini de travailler. Bon, alors, ton loyer, tu dis qu'il est toujours trop cher. Ça, c'est vrai. Moi, je m'y suis beaucoup plus. Mais bon, tous les mois, 480 €, 470 €. J'ai du mal financièrement, j'ai du mal avec mes 1 200 € par mois, j'ai du mal à y arriver, payer l'électricité, payer la voiture, même s'il n'y a qu'une réparation à faire, 80 € par-ci, 70 € par-là. Donc moi, pour moi, c'est devenu trop cher. Ouais. Eh bien, cette idée m'est venue parce que nous étions allés en vacances avec mon mari et mes enfants il y a 20 ans. Là, c'est pour y finir mes jours, hein. Je veux dire, c'est pour finir ma vie, là. Hein. Donc c'est un état d'esprit différent. Je ne peux pas dire que je suis ravie, hein, plus que ça. Mais je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas dire que c'est gai-gai. Hein. J'ai eu l'immense chance de rencontrer ce couple de jeunes là, qui me tient un petit peu compagnie. Et bon, je suis un peu, je pense, la maman. Ils n'ont pas la maman ni l'un ni l'autre. Alors, comme ils ont l'âge d'être mes enfants, et ben voilà, et que les miens sont loin. Alors, c'est pas un choix délibéré. C'est un choix par raison financière. Et puis peut-être après d'aller rejoindre mes enfants. J'en ai un qui est marié, qui est en Ariège, qui est père de famille. Alors je me dis, bon, bah, tu prendras ta maison sur ton dos, là, comme l'escargot, puis tu iras les rejoindre. Voilà.
Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Vous adoptiez cette solution-là.
Oui. C'est surtout eux qui m'ont poussé à cette idée. Cette idée vient d'eux surtout. 15 ans de fonctionnariat. Le service comptable m'a évalué ma retraite. 15 ans de fonctionnariat, j'aurais 500 euros. Alors après, j'ai travaillé. Hein. Je travaille depuis que j'ai pas 15 ans. Moi, je fais partie de cette génération. On a travaillé de très bonne heure. On n'a pas eu d'études dans certains milieux ouvriers. Et j'ai commencé de très bonne heure à travailler. Mais j'ai eu 10 années d'artisanat non déclaré. Donc, il me manque des années.
Et votre mari ?
J'en ai pas. J'en ai eu un. Il est décédé. Ouais.
Il y a une dizaine d'années, vous auriez pu penser que vous habiteriez un jour dans un...
Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, non. C'était pas dans mon but. Non, non. Ah, le but, c'était de vivre dans la maison avec mon compagnon et puis... Voilà, de finir mes jours avec quelqu'un à mes côtés, et puis un jardin, voilà, un jardin.
Épousez-moi.
Vas-y, maman, dis-lui oui.
Viens voir là. Regarde par là. Regarde. Hein, qu'on l'aime.
Ouais.
Bien sûr qu'on l'aime. Ce serait bien qu'elle se marie avec nous. Épousez-moi.
Chris, la seule chose qui pourrait me décider à vous épouser serait que je sois assez folle pour vous pardonner. Et je doute de pouvoir le faire un jour.
À une chambre d'amis ?
Une chambre à deux lits.
On fait une sacrée équipe. Hein,
pour mes petits-enfants.
Ouais. Génial.
Voilà, avec la coiffeuse, là.
Et la petite salle de bain.
Là, il y a une salle de bain pour cette chambre-là.
Ah ouais.
Et puis ma chambre est par là. Il est vendu comme ça. D'accord. Il est vendu en l'état.
Et ça vous plaisait, la déco, par exemple ?
Du tout.
Pas du tout ?
Du tout, du tout. Non, 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 non. C'est anglais, hein, c'est des Willoughby. Ils sont conçus d'une façon qui m'a plu, mais après la décoration, la couleur des rideaux, non. Je me l'arrangerai à ma façon. Les gens sont surpris quand je montre des photos. Ah, ils me disent, c'est ça, ton mobil-home. Mais dis donc, c'est bien, c'est chouette, c'est luxueux, c'est grand. Oui, 40 mètres carrés.
Voilà. Réciproque.
C'est vrai que souvent dans les médias, on voit le camping comme étant que des gros beaufs qui habitent dans des campings. C'est vrai que d'habiter en mobil-home, des fois, quand vous dites à des entourages en fait, ou des gens que vous venez de connaître, en fait, c'est une connotation un petit peu de. Peut-être de gitans, ou des gens du voyage, ou des gens peut-être peu fréquentables, quoi.
On est sorti de la société.
On l'a marginalisé.
Je me sens surtout perdue.
Comment cela ?
Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre Ming Li. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'elle manipule Kane.
Gitan, infréquentable, gens du voyage, marginalisés. C'est assez touchant et de voir comment, et bien sûr, il faut réprouver des paroles comme ça, mais on comprend tout à fait qu'on veuille se distinguer. Autant qu'on puisse le faire des autres, de ceux qui bougent. C'est ça le racisme ordinaire, cette stigmatisation ordinaire et très répandue et qui passe tout à fait tranquillement. Alors ne pas être des gitans, c'est pas facile parce que beaucoup de Roms vivent dans ces conditions-là, si tout simplement. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a rejet, il n'y a pas une culture véritablement. C'est pas une affaire de race, c'est pas une affaire ethnique, c'est pas non plus une affaire religieuse, comme dit l'autre. C'est une affaire simplement de précarité due, alors pour ces occupants de ces campings qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, je disais un chiffre, on estime entre 70 000 et 200 000 ceux qui résident dans ces conditions. Et pourquoi c'est pas plus précis? Bah, tout simplement parce que les gérants des campings se gardent bien de comptabiliser ceux qui habitent là, puisqu'ils n'ont théoriquement pas le droit d'héberger qui que ce soit à l'année. Alors ils se gardent bien de dire précisément les choses. Mais l'augmentation indéniable de ces occupations, de ces populations, sont évidemment dues, imputables, à la recrudescence de la précarité et à la crise de l'immobilier qui pousse chaque année davantage de gens, notamment des travailleurs pauvres, vers ce mode de vie qui est, on comprend, le dernier recours avant la rue. Pour certains, mais pas pour tous, pour certains. Ça pourrait être un mode de vie, on le voit, avec Jacques, qui s'en accommode pas si mal que ça. Après tout, c'est pas si mal. On pense d'ailleurs au mode de vie aux États-Unis, où on a pas mal de gens qui vivent dans ces conditions, dans des mobile homes, et qui en ont pris l'habitude, à défaut de savoir si ils sont véritablement heureux. On se trouve toujours entre le subi et le choisi, et on sait bien comment, par simple dignité, on a tous tendance à faire du subi, du choisi.
Je trouve que d'être propriétaire en France, c'est très dur, quoi. Il faut quand même des rentrées d'argent, quoi. De toute façon, Toulouse, c'est inaccessible. Regardez, je suis responsable de magasin, du jour au lendemain, je ne vais pas y être. Alors, en plus, j'ai 32 ans, quoi. Je veux dire, mais même maintenant, je ne me verrais pas, en fait, m'investir, en fait, nous investir dans une maison, parce qu'en fait, je trouve. J'aurais peur du lendemain, quoi. Et à côté de ça, moi, je suis dans une entreprise où mon patron, maintenant, il fait remplir que des CNE, des contrats nouvelle embauche, ou des nouveaux contrats, donc précarité de 2 ans, quoi. Voilà. Donc, mon patron, qu'est-ce qui s'est passé? Il a embauché quelqu'un il y a 2 mois, il a dégagé, quoi. Il va refaire signer un contrat nouvelle embauche, quoi. Il n'y a que la fonction publique qui sont tranquilles, quoi. Enfin, je crois que, voilà, c'est un...
Mais ça se fait aussi dans la fonction publique, hein, Christophe. Je peux vous dire que moi, je travaille pour le Centre communal d'action sociale de la mairie de Toulouse. On arrive à travailler 4 ans ou 5 ans avant d'être titularisé. Il y a des contrats qui se font de 6 mois en 6 mois.
Alors, c'est vrai que pour projeter quelque chose, vous inhibez tout projet, tout avenir, parce que vous dites « je ne suis pas embauché ».
La fonction publique, elle a quoi? Elle a 1100, elle a 1200 euros par mois. Et s'il faut qu'elle sorte 500 ou 600 euros de loyer par mois, elle ne peut pas. Il y a une inflation au niveau du prix du logement qui est effarante. On est quelques-uns comme moi, sans doute, à se loger dans des mobil-homes parce qu'on n'a plus les moyens de se loger autrement. Je trouve qu'aujourd'hui, même tout en travaillant, on a du mal à joindre les deux bouts. Je trouve qu'on a de plus en plus de mal. Vous voyez, des choses aussi simples que ça, on regarde à se payer le coiffeur. Parce qu'il faut d'abord penser à mettre de l'essence dans la voiture, à payer l'assurance. On veut rester en contact avec les enfants, donc il faut payer le téléphone. Et tout ça, ça fait qu'on va d'abord aux priorités. On est obligé de changer de goût de vivre. Je suis allée faire ressemeler mes chaussures aujourd'hui. Un cordonnier va me dire, mais c'est normal, madame. Tant mieux si c'est normal pour lui. 20 euros. Tout en travaillant, on a du mal. C'est difficile de vivre au quotidien.
Même si on est à la merci des sirènes de la profonde, dans les bas-fonds du fond du bas, y'a des beaux gars, des beaux dégâts, des noirs d'encre comme un cri, de la fange qui se débat, étoilée de nos inerties, quand le monde gronde. Ça qu'on soit mal, et pire encore qu'on soit malheureux. Heureusement, y a les fleurs du mal. Y a le vent qui nous dit déjà. Ça brillera et ça meurera dans les vapeurs de l'oubli. choisi, même si c'est en raccourci.
Là, cette partie-là que l'on attaque, c'est vraiment que le passage. C'est-à-dire, c'est pour les camping-cars à la nuitée. Voilà, tout ça, là. Tout ça, sont des touristes. Au niveau des ouvriers, il y a Bernard. Au fil d'un gars, je crois que c'est ce genre d'artisan qui a dû plonger plusieurs fois, qui en a eu marre de tout. Situation familiale qui s'est cassée la gueule. Enfin, souvent, c'est la série, hein, le boulot, la femme, ceci et cela. Un de ses très bons copains vivait déjà ici et il a décidé de le rejoindre. Voilà.
Alors voilà, on est avec Christian Lagarde qui est le gérant de ce camping du pont du Rupet à 5 km de Toulouse. Oui, on n'est pas allé dans une zone tellement sinistrée de France. C'est une région qui se porte pas trop mal, enfin quand même, hein, Toulouse, c'est Toulouse. Et ben voilà comment on vit dans ce camping. On a rencontré un certain nombre de personnes qui vivent là. Et là, effectivement, voilà Bernard qui nous a été présenté par le gérant, par Christian. Bernard.
Ah, vous écoutez la radio.
C'est vous.
Ah, vous avez une grosse télé aussi. Vous, c'est Bernard.
Oui.
Je peux raconter un peu peut-être où vous vivez.
Racontez.
Grande vitre au fond. Pas mal de lumière qui rentre. Ça, c'est le canapé-lit, clic-clac.
C'est le lit de mon fils. Je suis arrivé ici tout bêtement parce que j'avais un appartement. Je me suis disputé avec ma propriétaire. Il a fallu que je parte très vite. Voilà. Et c'est la solution qui a été la plus rapide à mettre en œuvre. Parce que pour retrouver des apparts à Toulouse, c'est très difficile, évidemment. Comme je connaissais Jacques, qui lui vivait ici depuis pas mal de temps. Qui allait, banco, j'arrive.
Il y a quoi sur les murs? C'est le Kamasutra au milieu?
Je sais même pas. C'est un extrait d'un livre hindou, je crois.
Bon, enfin, c'est assez érotique quand même. Hein,
un peu. Oh, s'il y a une paire de fesses. Non, mais ça, c'était mon ancien propriétaire, justement, qui était photographe, qui avait fait cette photo.
Celle de gauche?
Oui.
La femme nue qui est de dos?
C'est une photo en noir et blanc qui m'avait bien plu.
Celle avec qui vous êtes engueulé?
Voilà.
Vous aviez quand même partagé des photos d'abord.
Ah, on a partagé beaucoup de choses. Justement, c'est parce que je voulais partager trop de choses. Quand je l'ai retrouvé dans mon plumard, j'ai dit non, c'est pas ça. Donc une forte ressemblance à Coluche, non. C'est...
Ah, non, Josiane Balasco, faut dire.
Ah non, carrément Coluche. Là. Les cheveux.
C'est joli, vous voilà, avez.
Là, il y a mon gosse. Il y en a plein que j'ai pas mis parce qu'ils sont dans les placards et puis que j'ai pas envie de faire des trous. Ben, j'y resterai pas. Je me sens pas vraiment chez moi, quoi. Moi, j'ai besoin de murs. C'est vraiment du dépannage.
Le foot, c'est vous ou votre fils?
C'est mon fils.
Alors vous, du coup, vos passions, c'est quoi?
J'en ai plus.
Ah ouais, vraiment tout nettoyé sur votre chemin, quoi.
Mais vous en aviez. C'était quoi?
La fête, déjà. Bosser, rentrer de l'argent, faire la fête. Officiellement, je suis en invalidité, donc je ne peux pas travailler.
Officieusement.
On va rester à la version officielle. Non, je bricole, disons. Ma profession, j'étais gérant d'une entreprise de transport.
D'accord. Vos revenus, si ce n'est pas indiscret, je ne sais pas un chiffre exact, mais finalement, ils sont composés de quoi?
J'ai une pension d'invalidité qui fait 1 000 euros. Et comme avec 1 000 euros, on ne va pas très loin, mais pour le reste, il faut que je me débrouille, quoi. Bon, moi je suis dans un coin là, du camping où, disons que c'est pas le genre de fréquentation que je souhaite avoir. J'ai pas envie de faire du social. Voilà. Je peux pas. J'ai pas envie de connaître les problèmes des uns des autres, quoi. Bon, je présume que s'ils sont là, c'est qu'ils en ont. Mais bon, tout le monde a les siens, quoi. J'ai eu une infection cancéreuse.
Et c'est terminé?
A priori, oui. J'ai des examens à faire là. On saura ça dans quelques temps.
Et ça s'est fait en même temps que la séparation avec votre femme?
Ah, mais vous êtes au courant de tout, vous.
C'est vous qui venez de me le dire.
Ah bon? Ouais. Je vous ai dit ça, non? C'est arrivé tout en même temps. Pendant très longtemps, ça a eu des conséquences psychologiques. Parce qu'en même temps, bon, donc, il y a eu la perte de la mère du petit, il y a eu la perte de l'entreprise. J'étais quand même gérant, j'avais 60 salariés, je gagnais 30 000 balles par mois. On passe pas de tout ça à zéro sans que ça fasse des dégâts, quoi. Donc, bon, mais j'ai commencé un petit peu à pédaler à côté du vélo. Et j'étais plus capable de bosser.
Waouh!
Eh ouais! En l'espace de quelques mois. Donc, bon, j'ai disjoncté un peu. C'est long, mais on s'en remet.
Qu'est-ce qui est le plus dur à s'en remettre?
Tout. Tout. Faut que ça se décante, tout ça. J'ai peut-être besoin de passer par là aussi. Parce que bon, c'est vrai que j'ai eu vraiment la belle vie. Donc ça fait du bien un petit peu de voir qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas la belle vie.
Et vos parents étaient de quel milieu ?
Ouvriers. Oui, mon père, j'ai très peu connu mon père, parce que je l'ai perdu quand j'avais 7 ans, donc je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Bon. Puis ma mère faisait des ménages, des trucs comme ça, quoi. Déjà modeste.
Vous aviez déjà connu ça, non ?
J'avais connu, oui. Mais j'avais oublié. On nous dit vite, hein, quand tout va bien.
On va voir Jacques ? Comment ça marche ?
Vers le bas.
Vers le bas.
On m'aurait dit il y a 5 ans en arrière, ou il y a 10 ans en arrière, que je vivrais au camping aujourd'hui, j'aurais dit ça, peut-être. Comme disait mon ex-propriétaire, la vie est une pute. Voilà.
Pour planter une canadienne, il faut un terrain qui se tienne, éviter les sols argileux, ou trop crayeux, ou trop herbeux.
Pour monter une canadienne, il faut un endroit qui convienne, pas trop éloigné des barrières, des sanitaires et des water.
Pas trop près d'une rivière, à cause des inondations, d'une centrale nucléaire, à cause de la pollution. Pas trop près d'un chemin de fer, à cause des vibrations, des ordures ménagères, à cause des émanations. Pas trop près d'une grande surface, d'une fabrique ou d'un drugstore, d'une réserve de chasse, d'un élevage de porcs, d'une ligne TGV, vous pourriez vous envoler. Pas trop près d'un cimetière, l'ambiance pourrait vous déplaire. En plantant votre canadienne, n'écoutez pas toutes les fredaines, prévenez tout désagrément, clôturez votre emplacement.
Avant que des voisins ne viennent et ne s'installent pour la semaine, sortez votre berger allemand.
Lâche-moi, sale bête!
Faites-le aboyer, abaruillamment!
C'est calme, c'est très très calme aujourd'hui. Ah, voilà la Harley Davidson de Myriam. Je vais aller toquer voir chez eux à quoi ça ressemble. C'est qu'on avait rencontré hier avec Françoise. Je vous embête, non. C'est trop tôt.
Mais il est pas encore rentré, mais c'est pas grave, vous pouvez venir.
Ouais.
Ouais, il y a pas de problème.
Il est allé bosser.
Ouais.
Ah ouais. Dimanche matin.
Oui.
Oh là là.
C'est sur ça que tu fais.
Ah, je passe deux minutes, c'était juste pour voir, comme vous m'en avez tellement parlé. Je ferme.
Garfield
pour le chat.
Garfield vient. Ouais.
T'es sur le chat, je referme. Voilà. Vous avez des fous d'échecs ? C'est pour ça qu'il y a un grand...
Il y en a plein, il y en a là.
Ah ouais.
La lune, la batterie.
C'est la passion de qui?
Les deux.
Ouais.
Oui. Surtout la sienne, mais bon.
Ça, c'est les casques de la Harley.
Ouais.
Voilà. C'est comme on dit, la façon de vivre à l'américaine, la Harley, le mobile home. Vous êtes bon pour les États-Unis, là. Hein.
En plus, c'est un peu sa façon de vivre et sa façon de voir les choses.
Ouais.
C'est un fanat du système américain. Hein. Donc voilà.
Ça y est, il arrive.
C'est lui. Alors, ouais. Ça, c'est le salon.
Voilà. Donc, ça, c'est le coin cuisine, en fait.
Donc, la salle de bain qui est là. La chambre du petit qui est là.
Qui est là aujourd'hui?
Ouais, il arrive là. Les toilettes, ici.
Ah, vous avez repeint aussi tout en rouge.
Oui. Hein.
Bonjour.
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 Hop là. Ah, excusez-moi.
C'est moi, je viens juste d'arriver.
Et moi, je viens juste d'arriver aussi.
Tu bossais aujourd'hui?
Ouais, je travaillais, ouais. Je travaille du mardi au dimanche, ouais.
C'est pas humain.
Je fais... Ouais, non. Ouais, enfin...
J'ai un cadeau.
On fait ce qu'on peut.
Et tu vas à quelle heure le matin?
4h, hein.
Ah, c'est 4h du matin?
4h, 2h d'après-midi.
Ça, c'est et... la baguette que tu veux.
Ouais, ouais.
4 heures, tu veux la goûter, hein.
Tu veux manger un bout?
J'ai un tout petit bout, je veux voir ça.
Ah, vas-y.
Bon, hein.
Ouais.
Mmh.
Et encore tiède, encore. Oui, c'est un genre de truc. Je vais faire portage, bébé.
Non, à la radio.
T'écoutes la radio, toi? T'écoutes un peu la radio, toi?
Tristan, on te parle.
Il répond, hein, chérie.
Ah, j'entends pas. Vous avez fait connaissance avec nos chats?
Non, enfin oui, oui. Garfield, ah bah oui. Oui, en plus, t'as la tête à t'appeler Garfield.
Ouais, carrément.
T'as pas trop de choix. Elle est là-bas, elle se cache.
Toi?
Oui, Tristan.
Donc j'ai eu rien de jouer à...
Non, mais garde-le, je vais jouer, moi aussi, un petit peu, on y jouera tous les deux.
D'accord.
Le petit barbecue. Et ça, c'est toi qui l'as fait à la main, ce petit chalet ou...
Ouais, c'est tout con, c'est du Lego en fait.
Ouais.
C'est des trucs qui s'emboîtent comme ça et tout. Bon, il faut être un tout petit peu bricoleur, quoi, mais c'est rien de bien méchant, quoi, je veux dire.
Donc, ça, c'est ta salle de muscu.
Ouais. Ça, c'est tes appareils de torture. Bricolage. Et puis après, les VTT en fait. Quoi, faire du VTT avec ma chérie. C'est mon petit coin. Je fais un petit poste et puis je me fais mon entraînement. Parce qu'en fait, je fais de la compétition au judo en fait.
D'accord.
En moins de 90, c'est plus de 80 kilos. Et comme là, j'ai 94, il faut que je maigrisse.
Ah vache.
J'ai pris du poids.
Ça fait juste pas chaud, quoi.
Ouais, mais enfin, tu sais, quand tu t'entraînes, tu vite. C'est comme quand tu vas courir, quoi. Hein. Je veux dire, tu fais vite, tu te réchauffes vite, pour le coup.
Et vous avez les trains derrière, là. Hein. Il y a les trains.
Ouais, on les entend pas. Quand je viens, je suis encore, pour le coup.
On les entend pas. Ouais. Bon appétit.
Passez bonne journée.
Merci pour la visite.
À François Simon, ce reportage était signé par Olivia Gesbert. À la technique cet après-midi, il y avait Ronan Mallet et Cédric Lalanne. Assistante, Pascal Pascariello. Réalisation, Yann Chouquet et Corianne Guyenne. Le chef du répondeur, c'est Christophe Humbert. Il vous attend au 01 56 40 37 37. Il y a aussi un fax à votre disposition. 01 56 40 41 07. 01 56 40 41 07. Et puis un mail, si vous préférez, daniel.mermet@radiofrance.com.